Bonjour à tous, bienvenue sur Temps Long, l'émission politique de Bismart, For Change et Décideur Magazine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pas très glamour mais c'est nécessaire, on va donner quelques chiffres pour planter le décor. 1540 actes antisémites ont été recensés en 2024 en France. En 2022, c'était seulement 460, c'est une hausse de plus de 70%. Quand on demande à des juifs de moins de 35 ans s'ils ont été victimes cette année d'actes antisémites, 37% répondent oui. Autre chiffre aussi qui peut être intéressant, les juifs, même s'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, représentent à peu près 0,4% de la population. Ils concentrent à eux tout seuls 53% des actes antireligieux ou racistes. Donc, contrairement à ce que disent certains, l'antisémitisme n'est pas résiduel en France, il n'a jamais été aussi élevé. Comment le combattre ? Quelle est l'origine de l'antisémitisme ? Est-ce que c'est plutôt l'extrême droite ? Est-ce que c'est plutôt l'extrême gauche, le centre, la droite ? En quoi l'antisémitisme concerne tous les Français et non pas une petite minorité de la population ? Pour aborder toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick Lugman. Bonjour.
Bonjour.
Je peux vous définir, vous avez beaucoup de casquettes, mais on va dire avocat, militant antiraciste et plutôt ancré à gauche.
Tout à fait.
Vous avez commencé à l'UEJF, à SOS Racisme, au PS. Vous avez vraiment un ethos de gauche. Quand vous êtes engagé en politique et dans la vie publique, est-ce que, quand vous combattiez l'antisémitisme, vous auriez pensé que vous auriez à le combattre à gauche ?
Déjà, quand je me suis engagé, il n'y avait pas d'antisémitisme. Donc moi, je venais d'une famille qui a été marquée par la Shoah, donc parce que c'est que l'extermination antisémite, et je me disais que mon devoir en tant que petit-fils de survivant était de défendre ceux qui, dans ma génération, étaient potentiellement victimes de racisme, mais qui, par hypothèse, dans mon expérience, dans mon vécu, n'étaient pas des juifs. Et c'est comme ça que je rejoins l'UEJF et SOS Racisme. Ça, c'est la première chose. L'antisémitisme est une maladie qui avait disparu, non pas totalement des discours ou des idées, mais qui avait disparu des actes. Ça, c'est la France dans laquelle moi, j'ai grandi à la fin du XXe siècle. Bon. Ensuite, je ne pensais pas le rencontrer dans des formations politiques, dans un camp politique, la gauche, qui s'est construit autour de l'idée que l'antisémitisme est une infamie. En réalité, c'est un raccourci ce que je fais. Mais c'est vrai que dans ce moment-là, on se dit que l'antisémitisme ou le racisme viennent de l'extrême droite, parce que politiquement, à ce moment-là, c'est encore vrai, et qu'il est combattu par la gauche, extrême gauche, parce que politiquement, à ce moment-là, c'est vrai. Souvenons-nous, par exemple, que la loi Guesso, par exemple, qui réprime le négationnisme, elle est portée par un député communiste. Bon, alors on aurait pu se dire oui, mais les négationnistes de la fin du XXe siècle, ceux qu'on connaît bien, Faurisson, Garaudy, pour prendre deux exemples connus, ils viennent en fait plutôt de l'extrême gauche, même clairement de l'extrême gauche, et ils sont passés à l'extrême droite sur cette question. Donc on voit bien aussi une porosité qui a toujours existé.
Mais en tout cas, si on est concret, quand vous étiez dans les années 80, 90, enfin plutôt 90-2000, étudiant en droit, sémillant, et que vous étiez confronté à l'antisémitisme, en fait, vous étiez contre des militants FN, contre l'Action française, contre l'extrême droite.
Exactement. Et c'est le tournant des années 2000 qui arrive exactement quand je suis président de l'UEJF. J'ai 25 ans, 23 ans. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui explose, qui nous explose au visage, qui est un impensable. Il y a des actes antisémites en France qui ne viennent pas du tout de là où on les attend. Ils ne sont pas politiquement revendiqués, ils ne sont pas politiquement identifiés. Ils ont lieu dans des quartiers populaires où il y a des populations mélangées, donc périphérie des grandes villes, banlieues difficiles. Et à ce moment-là, moi, je n'ai pas des œillères. Donc, je prends avec mes amis d'SOS Racisme une responsabilité, une initiative. Je publie le premier recensement des actes antisémites en France dans les années 2000. C'est en 2002, ça s'appelle les antifeuges. Il y a d'abord une tribune d'interpellation dans le monde, les antifeuges. C'est une génération qui vous dit... Je ne suis pas antisémite, mais j'aime pas les feuges, les antifeuges. Et donc, on va publier un livre chez Calman Levy avec un sondage, avec un recensement d'actes. À ce moment-là, il y en a 405 en 2002. Et donc, ça nous pète au visage sans même qu'on l'ait identifié avant. Donc, j'ai grandi à partir de ce moment-là comme militant avec cela. Et je voyais bien, c'était le gouvernement Jospin à l'époque, pardon pour les plus jeunes d'entre nous, mais qu'on ne savait même pas, on ne comprenait même pas ce qu'on racontait. Je me souviens d'une réunion avec Daniel Vaillant, qui était le ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin. Il ne comprend pas ce que l'on dit. C'est comme si je lui
Ne
parlais en
comprend pas
chinois.
ou il feint de ne pas comprendre pour ne pas, on va dire, faire augmenter l'extrême
Non,
droite ou le
je
racisme.
crois qu'en ce moment-là, ils ne comprennent pas. Le logiciel est trop daté, il n'a pas assez de capteurs, ce qui par ailleurs explique aussi la défaite de la gauche et son refus. La gauche, à force de construire sur des discours et sur des principes, elle a perdu des capteurs sensibles de certaines réalités sociales. Celle-là en est une. Et bon, voilà, ça veut aussi dire qu'il y a un déplacement de l'électorat juif, pour peu qu'il existe, de la gauche traditionnellement vers la droite.
Ça s'est fait d'ailleurs en 2007 avec
Ouais,
Nicolas Sarkozy. Et
ouais.
la première cible d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, c'était Daniel Vaillant.
Bien sûr, et je comprends tout, ouais, parce que Nicolas Sarkozy, avant d'être président de la République, il a été lui aussi ministre de l'Intérieur, et lui, il avait parfaitement identifié, compris le sujet dans son importance et dans son importance politique. Et lui, il revendique le fait qu'il y a un problème et que ce problème n'est pas celui simplement des cibles, donc les Français juifs, mais qu'il est un problème social et sociétal d'une très grande puissance.
Et pourquoi la gauche à ce moment-là se mettait des œillères? Pourquoi elle n'a pas voulu appeler un chat un chat?
Encore une fois, il y a du conformisme intellectuel, il y a de l'aveuglement idéologique. Mais vous avez aussi des voix à gauche qui ont toujours été extraordinairement lucides. Si vous prenez les deux maires de Paris successifs, Bertrand Delanoë ou sa successeur, on n'a jamais mis d'œillères, on n'a jamais hésité sur les mots, on n'a jamais hésité sur les moyens. Bon, c'est quand même la capitale de la France et c'est pas n'importe qui, tant Delanoë que Anne Hidalgo. Il y en a évidemment d'autres, des Julien Drey et aujourd'hui des Jérôme Gage qui prennent cette question à bras le corps. Mais en réalité, il y a toujours eu un antisémitisme à gauche. Il y a, depuis la création de l'État d'Israël, un antisionisme virulent qui est en plus très manipulé par d'autres pays ou d'autres chancelleries sur des agendas politiques très intérieurs. Et tout ça fait un bouillon qui devient extrêmement compliqué, extrêmement puissant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un petit gamin se fait emmerder dans son lycée, ça peut être jusque dans le 7e arrondissement de Paris, j'ai des cas à Durby par exemple. Bon. Mais tout ça provient d'une décomposition intellectuelle qui est très propre à la France, mais qui est par ailleurs relayée, alimentée par des comptes TikTok, par des médias comme Agi+, par des moyens parfois d'État. Ce n'est pas forcément des moyens purement antisémites, mais par exemple, la propagande russe pour déstabiliser l'Europe et certaines sociétés occidentales, dont la nôtre, elle a très bien compris que instiller le sujet, la thématique antisémite était un agitateur sismique formidable. Et en bon observateur de ce qui peut faire péter une société, il joue avec ça.
Mais
C'est l'histoire des mains à poser sur le mémorial de la Shoah, par exemple.
quand on parle donc tous les discours antisémites, notamment le dog whistle qui vient de la gauche,
Ouais.
est-ce que vous pensez que les élus de gauche, notamment de LFI, ils agissent comme ça parce qu'ils sont sous l'influence de pouvoirs étrangers ou parce qu'ils ont vraiment un agenda en tête? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font?
Il y a deux choses. On va faire un saut dans l'actualité la plus brûlante. On n'est pas ici pour faire un cours d'histoire, mais pour essayer de comprendre où nous en sommes. Je pense que l'antisémitisme, il n'est pas venu par la gauche, mais la gauche n'a pas voulu le voir. Ça, c'est ce que j'appelle de l'aveuglement ou de l'ignorance ou du conformisme. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. La France insoumise est un parti politique qui, pour une raison purement tactique et électorale, à partir au moins des élections européennes de 2024, donc le mois de mai, juin 2024, prend une stratégie. Avant, n'importe quel homme de gauche, vous l'accusiez d'être un antisémite, même d'être complice ou d'être insensible à l'antisémitisme, c'était une infamie. Et si je vous disais cela, je vous détruisais comme homme ou femme de gauche. Et là, il se passe quelque chose de tellement différent. Vous avez un parti autour de quelques figures très identifiées, c'est des parlementaires ou une femme qui veut devenir parlementaire européenne, Rima Hassan, qui embrasse toute la thématique antisémite et qui savent que ça embrase, qui savent très bien, parce que tout le monde le dit, et que les chiffres sont là, et que les actes sont là, et que les statistiques que vous avez rappelées sont là, qu'ils le font à dessein. Pourquoi? Pour récupérer des clientèles qui, d'après eux, sont plus sensibles et plus nombreuses à la thématique antisémite. En gros, il y a des gens qui, dans des états-majors de la LFI, sont dit, quand on dit que les Israéliens sont tous des pourris et que tous les Juifs sont des complices des pourris, ok, peut-être qu'on insécurise les Français juifs, peut-être qu'on verse dans une forme d'antisémitisme, mais électoralement, on va, pour une cible potentielle, on va récupérer 5 ou 10 électeurs.
Comme Henri IV qui disait Paris vaut bien une messe,
Paris
mais
vaut
ils
bien
se
une messe.
sont dit, après tout, plus 70% d'actes antisémites, ça vaut bien 7 ou 8 sièges de députés européens et un gouvernement.
Exactement. Et je vais vous dire un truc, Lucas, ça marche.
Ah bah oui,
Cette
ça fait des
stratégie,
chiffres, hein, donc.
elle a marché. Rima Hassan, en 2024, elle était 7e sur la liste de la France insoumise. Et lors de la précédente élection, ils avaient 6 électeurs, 6 eurodéputés. Donc il fallait qu'elle fasse son siège. La campagne, elle patine jusqu'au moment où ils décident de faire la liste euro-palestine, sans aucune prudence, sans aucun égard pour la vérité, pour la réalité, sans aucune dignité. Et ils y vont à fond, quelles que soient les conséquences sur le débat public français, sur la sécurité civile des Français et sur la sécurité des Français juifs. Ils n'en ont rien à faire et ça marche. Pourquoi? Parce qu'ils vont capter ceux dans notre pays qui ne sont jamais allés voter, qui sont les plus radicalisés, qui sont sur des convictions quasiment anti-républicaines et évidemment antisémites. Et eux, ils comprennent à ce moment-là qu'ils peuvent aller voter, qu'il y a même quelqu'un qui les représente.
Donc, d'après
Donc,
vous, LFI n'est pas foncièrement antisémite, c'est encore pire. En fait, ils utilisent l'antisémitisme comme arme électorale.
en tout cas, à ce moment-là, ils l'ont utilisé. Et vu les dégâts que ça a fait, ce que ça a suscité comme cri d'horreur, y compris chez leurs partenaires de gauche, on ne peut pas dire qu'ils ont fait comme s'ils ne l'avaient pas vu ou pas su. Et je vais même vous dire mieux. Il y a eu deux campagnes qui se sont succédées le même jour, le 9 juin 2024, fin des européennes, dissolution, donc campagne législative. À ce moment-là, la LFI doit changer de braquet complètement. Pourquoi? Parce qu'elle doit à toute hâte recréer une alliance électorale pour avoir des députés. Recréer une alliance, ça veut dire qu'ils sont par ailleurs aptes à gouverner, qu'ils sont assimilables dans un gouvernement. Et donc, à ce moment-là, on rentre, entre guillemets, la nouvelle députée Rima Hassan au placard, on met en sourdine Gaza et le génocide, et on cherche à créer et à animer le NFP. Eh bien, vous savez quoi? Les actes antisémites, donc au mois de juin 2024, ont une baisse drastique par rapport au mois de mai 2024. Donc, c'est purement tactique. Ce n'est que tactique. C'est absolument cynique. C'est une conviction qu'ils animent et qu'ils entraînent chez certains de leurs électeurs, mais de leur point de vue, c'est une décision d'état-major en campagne électorale.
Donc, d'accord, je comprends bien. L'état-major est calculateur. Mais les nouveaux militants, les nouveaux élus, les nouveaux qui vont avoir une investiture LFI, est-ce que eux peuvent se dire, maman, en fait, je suis vraiment antisémite et c'est dans ce parti, en fait, que je peux faire avancer mon agenda. En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle garde de LFI, il y a des personnes qui sont vraiment antisémites?
Il y a en tout cas ce que un ouvrage, La Meute, a mis en exergue, c'est que dans cette stratégie, il faut se débarrasser des cadres les mieux formés, les plus aguerris, les plus expérimentés, mais qui sont eux aussi ceux qui ont été formés par l'antiracisme. Alexis Corbière, Raquel Garrido, historique de la LFI, fondateur de la LFI, comme ils avaient fondé avant le Front de gauche. Eh bien, eux, ils sont passés par les SOS racisme, ils sont passés par l'antiracisme. Il faut les expurger, il faut les exfiltrer. Et on va prendre des gens qui sont prêts à tout pour devenir députés. Et on a les deux profils qui se disputent. Soit des gens qui sont des ignorants, prêts à n'importe quelle aventure idéologique. Et tous les régimes totalitaires ont fait leur base de ce genre de profils fragiles et extrêmement malléable et déterminé dans l'action, eh bien, ça fait un très bon de l'OGLU, un type complètement inculte, prêt à dire n'importe quoi, parce que l'opportunité d'être élu n'aurait jamais été possible autrement. Et puis, vous avez des militants qui, eux, manipulent l'ignominie avec connaissance, avec science, avec talent. Et donc, vous avez effectivement David Guiraud. Lui, il sait quel électorat il a. Il est élu à Roubaix et il sait exactement les thèmes et les phrases qu'il manipule, tout comme, évidemment, Rima Hassan dont on parlait. Donc, il y a les deux. Mais là où je voudrais être précis, c'est que la gauche, sans le faire exprès, elle s'est créée autour de deux choses concomitamment. L'idée républicaine, et l'idée républicaine, elle s'est affirmée dans notre pays au moment de l'affaire Dreyfus par le rejet de l'antisémitisme. Il y avait une fusion entre les forces réactionnaires et les forces antisémites, et pour la France, pour devenir vraiment républicaine, elle a dû rejeter la réaction et l'antisémitisme autour de l'affaire Dreyfus. C'est l'enracinement républicain, il date de ce moment-là. Et vous, c'est indissociable.
Sauf que eux, ce sont déracinés. Mais en fait,
non mais, en gros, je vais aller très vite. Ce que veut faire Mélenchon, c'est en fait déjauréciser la gauche. C'est faire que la gauche ne soit plus dreyfusarde et qu'elle soit même anti-dreyfusarde. Je manipule des concepts historiques, mais c'est très actuel. Et vous voyez que le NFP qui a été mis, qui a été créé en mettant de côté la question juive, c'est le moment que je vous ai indiqué, le 9 juin 2024, eh bien, en fait, il explose sur cette question. Et le congrès du Parti Socialiste qui se tient en ce moment, il oppose deux lignes fortes, une ligne qui dit l'union de la gauche et le totem suprême. Et quel que soit ce que dit une partie de la gauche et ce qu'elle anime en termes de thématiques nauséabondes, on s'en fout, il faut qu'on soit unis, et nous le serons à n'importe quel prix, et à n'importe quelle donc compromission. C'était la ligne d'Olivier Faure, et c'est ça qui a permis le NFP. Et vous voyez bien que le NFP a cessé d'exister, qu'il y a un congrès au Parti Socialiste, qui est un congrès qui se tient sur une seule chose. On ne peut plus être allié avec ces gens. Parce que ça veut dire que nous-mêmes, nous n'existons plus, que nous ne sommes plus rien.
Mais vous pensez du coup que le NFP va s'isoler, sortir du champ républicain et à toutes les élections se prendre un barrage républicain? Ou vous pensez justement que les autres partis de gauche vont avaler leur chapeau et vont dire « mais en fait, c'est juste des différences idéologiques
au moment où nous parlons, c'est la question qui est posée, mais moi je dis qu'une gauche qui soit LFI compatible dans la LFI que nous avons actuellement n'est plus assimilable, ni assumable, ni en tant que gauche, ni en tant que force républicaine. Et donc c'est pour ça que soit le PS résiste, quoi qu'il lui en coûte, un point de vue électoral aux prochaines élections, mais il restera vivant, et il restera donc une force potentiellement d'avenir, soit il mourra.
C'est quoi justement le message que vous voulez faire passer au PS?
Moi, mon message, c'est exactement le même que lorsque je me suis précipité sur un plateau de télé, sur Twitter, partout, quand on a annoncé le NFP. C'est très simple. Avec la LFI, rien n'est possible. Sans la LFI, tout est ouvert. Et il n'y a pas d'autre message. Et la question juive, elle est devenue, à cause de la LFI qui l'a alimentée, le plus grand tabou, mais au sens de ce que fait un tabou. Vous n'en parlez jamais, mais en réalité, il va déterminer votre action. Eh bien, la question, elle est là, comme elle l'était au moment de l'affaire Dreyfus. Elle a été matricielle pour la gauche. Si Jules Guesde avait gagné et avait estimé que Dreyfus était une affaire bourgeoise et qu'effectivement, les Juifs sont les suppôts du capital, eh bien, la gauche française, et donc la République française, n'auraient pas été les mêmes. Et là, on a cette histoire qui se joue à l'envers. On a le match qui revient en deuxième mi-temps, quasiment, même plus de 100 ans après. Et la question, elle est actuelle, elle est maintenant. Donc moi, je ne dis pas que toute la gauche est antisémite. Et on voit bien qu'il y a un très petit nombre d'acteurs qui agitent cette question. Mais en revanche, la compromission peut engloutir totalement la possibilité d'une gauche en France et très durablement.
Les gens vous diront, enfin les gens de gauche se disent, oui, mais après ce fou, on a quand même aussi avoir 200 députés et on pèse 30% des voix.
Oui, après, la question, c'est que je pense qu'il ne faut pas faire de calcul sur une question qui est aussi principielle, aussi identitaire, aussi fondamentale. On ne peut pas mettre des croix et cocher des cases. Ces 200 députés-là, ils sont maudits. Et ils sont maudits par la gauche parce qu'ils sont des députés de gauche qui ont ignoré ce qu'a été la gauche et ce qu'elle doit être.
Oui, mais ils vont dire, oui, mais je suis député.
Oui, mais dans ce cas-là, ils ne seront jamais réélus. parce que ça ne tient pas, parce que la République, quel que soit tout le monde, le front républicain contre la LFI, il est devenu principiel. Personne, aucun républicain sincère ne peut tolérer cette forme de républicain.
Peut-être.
Aucun républicain ne peut tolérer la brutalité qu'ils ont dans le débat. Aucun républicain ne peut tolérer même ce qu'ils font comme action en tant que groupe parlementaire. Donc, à un moment donné, c'est même plus une question de gauche, c'est même plus une question d'élection, c'est une question de défense républicaine. Et moi, j'ai beau avoir été un militant de gauche toute ma vie, un électeur de gauche toute ma vie, un élu de gauche, je ne mettrai jamais un bulletin de vote pour toute association politique avec ça. Parce que c'est des principes fondamentaux et que dans la vie, il faut avoir des priorités et des principes.
Alors, pendant que la gauche, on va dire, s'enfonce un peu dans l'antisémitisme, ne sait pas comment agir, etc., l'extrême droite a un élément de langage, mais qui sort non-stop depuis le 7 octobre. On est les boucliers des Juifs de France, on est vierge, on est innocent, on n'a plus rien à voir avec l'antisémitisme.
Alors,
Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces éléments de langage?
qu'est-ce qu'on doit répondre? D'abord qu'ils sont tous sauf vierges, parce que la gauche, elle a un truc pour elle, elle y est peut-être venue, mais ne vient pas de l'antisémitisme. Bon, l'extrême droite, elle, dans sa matrice, avant, quand vous étiez de gauche, vous étiez contre l'antisémitisme, et pour être à l'extrême droite, si vous n'étiez pas antisémite, ça marchait pas. Vous pouviez être mu par d'autres convictions.
Mais ça, c'était il y a un siècle.
Oui, c'était pas il y a un siècle. Pour le coup, c'était encore vrai il y a 10, 15, 20 ans. Bon. D'abord, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cliché antisémite mobilise énormément les électeurs d'extrême droite, contrairement à ce qu'on pense. On voit que l'extrême droite actuelle, qui n'est pas le FN, qui s'appelle le RN, qui n'a pas Jean-Marie Le Pen comme leader, mais Marine Le Pen, sa fille, qui, elle, dit qu'elle n'a rien à voir avec l'antisémitisme, on voit quand même que quand ils doivent élire, enfin désigner en toute hâte des candidats aux législatives, il y en a une bonne dizaine qui ont un rapport étrange. Alors, il y en a une qui dit « Oui, je ne suis pas antisémite, j'ai un dentiste juif ou un vétérinaire, je ne sais plus. » Il y en a une autre qui pose avec une casquette de la Waffen-SS. Bon, on voit bien qu'en termes de candidats, le ménage n'a pas été fait. Je ne parle même pas des militants, je ne parle même pas des cadres. On parle de candidats aux élections législatives. Donc, ils ne sont pas vierges en termes d'idéologie, ils ne sont pas vierges en termes de recrutement. Et puis même, si on prend Marine Le Pen, elle se crée comme personnalité politique avec des gens qui sont quasiment des néo-nazis, des Nicolas Crochet, l'ancien patron du GUD, qui était un type d'une extrême droite furieuse sur cette question. Bon, donc on voit bien que Marine Le Pen, elle n'a pas pris le pouvoir avec des gens modérés ou avec des gens qui voulaient aller sur une ligne douce, mais tous ses proches viennent de la ligne la plus dure de ce qu'a été le FN. Faut pas l'oublier. Et puis, moi, je vois que cette grande famille s'est réunie. Elle avait été désignée, elle s'est réunie, là, tout récemment. Et Marion Maréchal, qui est de la famille Le Pen, comme chacun sait, elle ne perd jamais une occasion de rendre hommage à ce qu'a été le Front National et son leader historique, qui a été, de manière assumée, un leader antisémite
Bardella aussi, on est.
pendant toute sa vie. Et j'en viens. Voilà, celui qu'on nous présente comme le visage le plus présentable, l'avenir du mouvement. Jordan Bardella, on lui dit, mais Jean-Marie Le Pen était antisémite, il refuse de le reconnaître. Donc on voit bien que c'est totalement faux qu'ils seraient guéris de cela. Ils n'en sont pas guéris. En revanche, ce qui est vrai, il faut le reconnaître, ce n'est plus leur matrice politique. Ils n'agitent plus cette question et ils l'instrumentalisent. Comment ils l'instrumentalisent? Ils disent effectivement qu'ils sont les boucliers, qu'ils ne sont pas. Je ne vois pas en quoi le RN serait un bouclier contre l'antisémitisme. Je ne vois pas où, je ne vois pas comment. En revanche, je vois que n'étant plus antisémite, leur permet de se dédouaner ou de s'afficher d'un racisme qui serait dans leur tête moins grave. Et donc, c'est une manière pour eux de dire, puisque nous ne sommes plus antisémites, on a le droit d'être sans limite dans notre expression à l'endroit des autres minorités, particulièrement de l'islam ou des musulmans.
Sauf que moi, il y a une citation que j'aime bien, enfin, c'est pas la citation mot à mot, mais c'est la conclusion d'un des livres de Jérôme Fourquet, qui dit qu'en fait, l'antisémitisme est un peu comme un canari dans une mine. Quand il commence à crier, ça veut dire que certes, il y a de l'antisémitisme, mais forcément, il y aura d'autres formes de racisme qui vont
Bien sûr.
se développer. Donc, justement, est-ce qu'on peut dire, enfin, comment faire comprendre aux gens que l'antisémitisme, ça concerne tous les Français, et que qu'on soit gay, qu'on soit catholique, qu'on soit femme, c'est une question, en fait, qui est inclusive, quoi.
Je pense qu'il n'y a rien à dire en termes de démonstration de plus que ce qu'on a vu lors des dernières élections européennes. Et on a bien vu, encore une fois, que pour une fille juive violée à 12 ans à Courbevoie au nom de la Palestine, en plein pendant cette campagne, on voit bien toute la violence, tout le morcellement que ça emporte dans la société française. Vous voulez que je vous cite le nombre d'attentats qui ont été commis en France au XXIe siècle, depuis 2015, soi-disant au nom de la Palestine. Donc on voit bien que c'est cette manière, c'est quelque chose qui peut ensanglanter le pays, qui fracture le débat public, qui dégrade nos rues, nos amphis. Donc on voit bien que pour la victime finale, réelle, il y a une explosion tout autour, un chaos, une stratégie du chaos qui est désastreuse pour notre pays. Et vous savez quoi? Les Français, ils n'adhèrent pas en masse. Ils ne suivent pas en masse. Ça marche sur une portion radicalisée de l'électorat, mais les Français, ils ne sont pas du tout clients de l'antisémitisme ni de ce qu'il produit dans la société française. Et donc, je ne suis pas plus inquiet que cela. En revanche, je le dis, sur l'extrême droite, le découplement qu'ils veulent faire antisémitisme d'un côté et racisme de l'autre ne marche pas. Et toute stratégie de stigmatisation, d'amalgame, qui rend tolérable des mesures de violence ou des mesures de discrimination, d'invisibilisation d'une minorité parce qu'elle est une minorité ou parce qu'elle a une autre naissance, c'est forcément une bombe à fragmentation de la société
C'est
française.
intéressant, vous vous dites, je suis plutôt, entre guillemets, réaliste ou combatif.
Ouais.
Pour vous, il y a encore moyen de lutter contre l'antisémitisme, de juguler le fléau, voire de le faire reculer?
Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il n'y a pas moyen? De toute façon, il faudra bien le faire. Encore une fois, c'est une question qui est tellement matricielle dans la conception qu'on se fait de notre République et de la paix civile au sens le plus basique du terme que de toute façon, il faudra bien prendre ce problème à bras le corps parce qu'il charrie beaucoup d'autres violences qui ne sont pas supportables dans une société.
Aujourd'hui, personne ne le prendra le corps, ce problème.
Objectivement, je pense que il est très bien pris à bras le corps, il est tout à fait dénoncé par la plupart des leaders politiques, quelle que soit leur orientation, à part ceux d'un seul parti politique. Mais on voit bien qu'on n'y arrive pas. Pourquoi? Mais là, on touche sur un point qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme, ou avec la lutte contre l'antisémitisme, ou avec la détermination à lutter contre l'antisémitisme. On en vient à est-ce que les politiques publiques, notamment en matière de sécurité, sont efficaces? Est-ce que l'éducation nationale arrive à parler à des générations entières et est-ce que la République parle à tous ses citoyens et aux plus jeunes et aux plus loin des centres-villes et des centres de décision? Voilà le malheur français. Et l'antisémitisme là-dedans est une dorsale, est une conséquence. Mais je ne crois pas que les leaders politiques de ce pays, et je ne crois pas que la population ait quoi que ce soit à voir ou de complaisant avec l'antisémitisme. Je pense qu'on a une minorité agissante. Je pense qu'on a un parti politique qui a décidé de jouer avec ça et que le reste bute sur une forme d'indolence et d'inefficacité française.
Enfin, vous faites partie vraiment d'une minorité, les personnes qui vont être plutôt combatives et optimistes. Merci beaucoup, on était content de vous avoir à l'antenne aujourd'hui. On avait 28 minutes, on est à 28 minutes 50. Donc, maître du temps respecté. Merci beaucoup, Patrick Lugman.
Merci.